Et la parole s'est faite chair, nous dit l'évangile de Jean, donc au chapitre 1. Affirmation essentielle de l'évangile de Jean qui recèle toute la question de l'incarnation. Et cette simple phrase a soulevé des milliers de débats, a entraîné des milliers de questions. Cette simple phrase est responsable d'un nombre incalculable d'hérésies, d'exclusions et de bûchers. On comprend en gros ce que cela veut dire. La parole, c'est la parole de Dieu, elle est faite chair, donc cela veut dire qu'elle devient homme en Jésus-Christ. Mais ensuite, ça devient compliqué. C'est qui cette parole ? Une sorte de demi-dieu, d'autre dieu ? Qui est cette parole qui est Dieu sans être Dieu, qui est à côté de Dieu ? Est-ce que c'est un deuxième dieu ou une personne de la Trinité, comme ça a été dit au IIIe siècle, ce qui ne simplifie pas tellement le problème ? Cette parole dont le symbole du Concile de Nicée nous dit qu'elle est engendrée et non créée, avouez que ça devient un peu compliqué. Qui est Dieu sans être Dieu ? Est-ce une créature ? C'est bien complexe. Et comment cette parole devient-elle chair ? Est-ce qu'il faut comprendre que, c'est, comme ça a été dit par certains hérétiques, que c'est une sorte d'entité divine qui est un peu à côté de Dieu et qui s'enrobe de chair, comme un gâteau qu'on nappe de chocolat, si vous voulez, pour devenir avec une apparence visible qui serait Jésus-Christ. Tout cela est extrêmement compliqué. Et je me propose donc, pour une fois, de faire avec vous un peu de théologie pour revisiter cette question sérieusement et y mettre un peu d'ordre. Tout d'abord, donc, la parole, qu'est-ce que c'est et c'est quoi ? Alors là, tout a été dit. Certains, comme dans le mot grec, dans le texte grec, il y a le mot « logos », certains ont dit « Jean a été influencé par les théologies, par les philosophies grecques stoïciennes ». Et donc, il serait question du « logos » stoïcien de la philosophie grecque, ce qui nous entraîne encore dans d'autres débats. Personnellement, je ne pense pas. D'autres ont dit « ce logos, c'est la raison ». Puisque « logos » en grec veut dire « la raison ». D'autres encore ont voulu y voir une autre entité compliquée qu'on trouve dans la gnose, qui était un courant mystique de cette époque, qui présentait le « logos » comme une sorte de forme un peu dégradée de Dieu, en quelque sorte. Et donc tout a été dit là-dessus, mais je ne pense pas qu'il s'agisse de philosophie grecque là-dedans. Je ne crois pas non plus qu'il s'agisse du « logos » gnostique. La solution la plus simple et très honnêtement la plus souvent adoptée et la plus sage, c'est de chercher la solution de cette parole tout simplement dans la Bible elle-même. En effet, cela n'a échappé à personne que la forme même du début de cet évangile de Jean, qui commence par « Au commencement était la parole », renvoie évidemment au premier mot de la Genèse « Au commencement Dieu créa ». Et on peut penser donc qu'il faut chercher dans la Genèse elle-même l'origine de ce que signifie cette parole et qu'il faut simplement chercher dans la théologie juive. Il s'agit d'une paraphrase de Genèse 1 et dans Genèse 1, effectivement, on trouve de la parole puisque Dieu crée tout par la parole. Il dit, plutôt il est écrit, « Et Dieu dit, deux points, la lumière est et la lumière est ». Et donc Dieu crée tout en Genèse 1 par la parole. Du coup, la solution, elle est simple, c'est que la parole dont il est question là, c'est simplement la parole créatrice de Dieu. Alors, ce que dit l'évangile de Jean, « Au commencement était la parole », veut dire que « au commencement est l'acte créateur de Dieu, que Dieu crée tout par sa parole ». Ce n'est pas une très grande nouvelle. Ce qui est une très grande nouvelle, c'est de penser que cet acte créateur de Dieu, il est encore à l'œuvre aujourd'hui. Et là, on a une affirmation essentielle et fondamentale qui s'oppose à deux choses. D'abord, à ce qu'on appelle le déisme. Vous savez, Voltaire avec Dieu qui est le grand horloger. Les déistes, c'est ceux qui disent « Dieu, il a créé le monde ». comme l'horloger crée l'horloge, et ensuite il regarde tourner l'affaire et il se croise les bras. La Bible, là, fondamentalement, s'oppose à ça, et elle dit Dieu, bon, admettons qu'il ait créé le monde, sous quelle manière on laisse un voile pudique sur cette question, mais c'est que ce qu'affirme l'évangile de Jean, c'est que cette parole créatrice du commencement, elle est encore à l'œuvre aujourd'hui. Et aujourd'hui encore, il y a une parole créatrice dans ce monde. Et aujourd'hui encore, Dieu est à l'œuvre. Ça, c'est une nouvelle essentielle donc, qui s'oppose au déisme et qui s'oppose aussi à toute la théologie juive. Vous voyez que ça va très loin, dirais-je. La théologie juive et les juifs encore aujourd'hui pensent que Dieu a créé le monde, que Dieu ensuite a contribué à améliorer le monde en donnant sa parole à Moïse sur le mont Sinaï, aux prophètes, mais que depuis les derniers prophètes, Malachie, eh bien, il n'y a plus de parole. Dieu ne parle plus, il cesse de parler, il n'y a plus de parole, et l'Esprit de Dieu n'est plus donné. Et donc, on est uniquement dans le rappel des anciennes paroles et dans l'obéissance à une loi qui a été donnée autrefois. Là, bouleversement, l'évangile de Jean nous dit « On n'est plus dans l'obéissance à des vieilles paroles d'autrefois, mais de nouveau, Dieu parle. De nouveau, Dieu est à l'œuvre dans ce peuple et de nouveau, il a quelque chose à nous dire et il va le dire par Jésus-Christ. » De nouveau, Dieu parle, de nouveau, l'Esprit de Dieu est donné, de nouveau, la puissance créatrice de Dieu est à l'œuvre. Et donc, nous sommes non pas dans une création fermée, mais dans une création continuée. Ça aussi, c'est une affirmation essentielle. On est dans une création qui est en train de se faire. Donc, on est en train de voir le monde en train de se créer. Ça aussi, c'est essentiel. En particulier pour donner une réponse au problème du mal. J'ai encore entendu ce matin à la radio un acteur très célèbre qui disait qu'il ne croyait pas en Dieu parce qu'il y avait trop de mal dans le monde. Eh bien, parce qu'il avait une théologie de Dieu qui n'est absolument pas celle que je prêche. Lui, son idée, c'était sans doute que Dieu a créé le monde comme un chef-d'œuvre fini. Donc là, on peut effectivement faire des reproches en disant « tu as fait telle et telle erreur ». Mais dans la théologie de l'évangile de Jean, le monde n'est pas fini. Nous sommes en face d'une ébauche. Par conséquent, s'il y a du mal, il ne faut pas le reprocher aux fabricants. Il faut simplement se dire que nous sommes nous-mêmes impliqués dans ce processus de création. Et donc, si vous voyez du mal dans le monde, ne passez pas votre temps à faire des reproches à Dieu, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire vous-même pour limiter ou réduire ce mal que vous observez. Et ainsi donc, c'est une invitation à voir le monde dans une dynamique et à voir aussi notre propre vie dans une dynamique. C'est-à-dire que nous ne sommes pas face à un objet fini, ni pour le monde, ni pour notre propre existence. Nous ne sommes pas les conservateurs d'une sorte de réalité de chefs-d'œuvre menacés par le péril de l'histoire ou par le péril du temps. Nous ne sommes pas là à être les conservateurs de musées, ni de notre propre existence, ni du monde autour de nous, mais nous sommes dans une dynamique. Et donc nous sommes dans un monde qui est à créer. Nous devons avancer, changer, inventer, transformer. Non seulement le monde doit avancer et doit se changer et se transformer, mais même notre propre vie. Nous ne devons pas vivre notre vie en se disant « il faut surtout que je ressemble physiquement et en tout point à ce que j'étais il y a 2 ans, 5 ans ou 10 ans ». Mais ma vie est un processus. C'est extraordinaire de voir les choses justement dans une dynamique de la création. Ma vie est un processus et donc ma vie elle avance. De toute façon elle avance, elle est en route. La question c'est elle est en route vers où ? Comment ? Avec quel moteur, avec quel dynamisme, avec quoi qu'il a fait avancer dans un sens créateur et créatif? Eh bien, la réponse est ça. Il y a une parole créatrice et Dieu, aujourd'hui, est le meilleur moteur pour la création d'un monde nouveau et même Dieu est le meilleur moteur pour la création de ce que sera votre vie à vous demain. Et c'est vrai aussi pour l'Église. Ce principe auquel les protestants sont tant attachés de l'Église réformée qui est toujours à réformer, semper reformanda, l'Église n'est pas un chef-d'œuvre qu'il faut maintenir comme elle était au XIIIe siècle, mais l'Église aussi doit être créée, renouvelée et réinventée chaque jour. Mais comment créer, comment renouveler, comment dynamiser? Et comment Dieu crée-t-il aujourd'hui et de quelle manière? Eh bien, la Genèse nous le dit, Dieu crée par sa parole. C'est-à-dire que Dieu n'est pas un magicien qui façonne les girafes avec leurs grands coups, qui fabrique le pouls avec un microscope ou je ne sais quoi, mais Dieu crée par la parole. Ça peut être compris de différentes manières. D'abord que la parole, c'est un contenu. Un contenu, et que donc la création, c'est une, je dirais, une création d'informations, une complexification. On ne peut pas déduire l'homme du singe. On ne peut pas déduire Mozart de l'être humain. On ne peut pas déduire ce que le monde est aujourd'hui de ce qu'il était au XIe siècle et encore moins de ce qu'il était il y a 10 millions d'années ou 1 milliard d'années. Et donc la création suppose un apport d'informations, une invention de choses extraordinaires qui surgissent et qui sont géniales. Et on peut dire que c'est comme ça que Dieu crée. Il invente et il donne une information, c'est-à-dire que le monde est plus riche en informations aujourd'hui que ce qu'il était dans son commencement. Et donc le monde est une création d'informations. Mais moi aujourd'hui, je vous ai dit que j'étais invité à prendre part à cette création. Mais comment comprendrais-je si personne ne m'explique ? Comment pourrais-je savoir où aller et au service de quoi me mettre dans ce brouhaha du monde qui va dans tous les sens? Dans quelle direction aller? Et comment puis-je, ou plutôt à quelle image de l'avenir je puis me mettre au service si personne ne me propose une image de l'avenir? C'est ça la question. Comment pourrais-je savoir où aller si personne ne me montre le chemin? Comment pourrais-je même imaginer vers quoi je suis invité à aller si personne ne me le suggère? Et comment même pourrais-je savoir ce que je dois devenir demain si je n'en ai aucune idée et si personne ne me propose quelque chose? On peut dire que la parole, c'est justement une explication. Et la parole biblique, la parole de Dieu, c'est l'explicitation de ce que l'on ne peut pas deviner soi-même. C'est un projet d'avenir, en quelque sorte. C'est en ce sens que la parole de Dieu, la parole théologique, est dite être une parole prophétique. Elle dit l'avenir, mais enfin, elle ne dit pas ce qui deviendra comme si c'était écrit, mais elle dit plutôt ce que l'avenir devrait devenir, ce que l'avenir est invité à être. Et ça, c'est une chose importante. Si je sais où je vais, je peux mobiliser mon énergie pour aller dans cette direction. Et autrement dit, la création se fait par un contenu, par une parole, par quelque chose qui est expliqué et qui est dit. Et c'est, je crois, le sens de l'Évangile en particulier. D'autre part, le savoir, et donc d'être ceux à qui il est dit quelque chose dans la Bible, le savoir, c'est aussi le pouvoir. En effet, savoir, c'est avoir un pouvoir sur les gens, sur les choses, sur les événements, tout le monde le pressent, en particulier ceux qui font dans les entreprises des rétentions d'informations en se disant que ça leur donne du pouvoir sur les autres. Eh bien, et c'est pas faux, parce que quand on ne sait pas, on ne peut faire qu'obéir. Et justement, l'Évangile de Jean nous libère de la question de l'obéissance. Parce que tout à coup, on nous explique et on nous dit vers où nous sommes invités à aller pour que nous trouvions nous-mêmes les meilleures solutions pour y parvenir. Et donc, dans l'ancienne religion, il n'y avait pas besoin de comprendre. Dans la religion des pharisiens, il n'y avait pas besoin de comprendre, il suffisait d'obéir. Fais ceci, fais cela, et ça avancera tout seul. Là, on n'est plus dans l'obéissance, on n'est plus dans la loi, mais on est dans celui qui fait confiance et qui explique où il veut en venir. C'est la nouveauté du message de Jésus-Christ et du Nouveau Testament. D'ailleurs, Jésus le dit à un moment donné, je cite de mémoire, il dit « Je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle frère, en fait, ou enfant, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais moi, je vous explique ce qu'il y a à faire. Et donc, vous n'êtes plus des serviteurs, mais vous êtes mes amis. Et donc, on n'est plus les larbins de Dieu, appelés à obéir à une règle et à des lois, mais on est ses amis, ses collaborateurs. Et il nous explique, il dit « Viens, regarde, c'est ça que je voudrais comme monde. On y va ensemble ou on n'y va pas ?» C'est un rapport totalement nouveau par rapport, dans la relation à Dieu qui est proposée là dans l'évangile de Jean. Après, il y a un grand débat au sein des théologiens. Débat compliqué parce que, admettons qu'il s'agisse de la parole de l'Ancien Testament, mais le problème c'est que dans l'Ancien Testament, il y a deux mots pour dire parole. Il y a Amar et Dabar. Et alors les théologiens se disputent pour savoir si c'est l'un ou l'autre. Les deux veulent dire ou parler, enfin il y a des nuances, les spécialistes sont capables de dire les nuances et sont sûrs que c'est l'un et pas l'autre. Personnellement, je n'en sais rien. La plupart des théologiens disent que c'est Dabar, la parole. Et à ce moment-là, ça peut faire allusion à quelque chose qui est ce que la tradition juive appelle les dix paroles. Les dix paroles, c'est ce que les chrétiens appellent les dix commandements. Alors effectivement, il ne s'agit pas là de commandements à suivre à la lettre, c'est des commandements très généraux. Et en fait, cela voudrait dire que cette parole qui nous est donnée là et qui se trouvera dans Jésus-Christ, c'est un programme à suivre. C'est un programme à suivre. C'est une proposition de programme, d'ordre de route. Ça ouvre une voie, montre un chemin, ça ouvre une route. Et c'est dans le Christ et dans l'Évangile, quelqu'un qui nous dit où on peut aller, qui propose un programme et un projet. À nous d'adhérer, ou non, de mettre notre énergie, notre vie au service de ce programme, ou non. Et accepter d'adhérer à ce programme, c'est ce qu'on appelle la foi, c'est l'adhésion. Oui, Seigneur, un monde fraternel où il y aurait du service, de l'amour, du pardon. Oui, Seigneur, j'y crois, j'y vais. Ça, c'est la réponse de la foi, tout simplement, dans la Bible. Et puis d'autres disent, non, il ne s'agit pas d'abar, il s'agit du verbe amar. Amar, parce que c'est le verbe qui est utilisé pour Dieu chaque fois qu'il crée dans Genèse 1. Vayomer Elohim, et il dit l'Éternel que la lumière soit, et la lumière fut. Et là encore, nous avons 10 fois Vayomer, et il dit. Encore 10 fois la parole. Et donc ce serait cette parole créatrice. Mais là, la parole est plus complexe, parce que Dieu ne donne pas un ordre à la lumière qui n'existe pas encore d'être, mais Dieu plutôt dit la chose qui va être. Ça, c'est compliqué. Dieu dit « la lumière, elle est » et « la lumière, elle est ». C'est-à-dire qu'il dit la chose avant qu'elle soit, autrement dit. C'est une parole qui dit le futur, en quelque sorte. Et ça veut dire que Dieu crée en parlant. C'est une forme de parole d'incarnation, justement. Mais la parole de Dieu, elle ne fait que s'incarner, tout simplement parce que, par exemple, une parole que nous entendons de Dieu, si je la mets en œuvre, j'incarne cette parole. Et je pense effectivement que la parole est en soi créatrice. Voilà. C'est déjà vrai dans la vie pédagogique. Les professeurs savent très bien que si on répète sans arrêt à un élève « tu es nul, tu es mauvais, tu n'y arriveras jamais », il sera nul, il sera mauvais et il n'y arrivera pas. Si on dit à quelqu'un « tu es bon, tu vas y arriver », eh bien, il y a de fortes chances pour qu'il y arrive. C'est ce que les spécialistes appellent la parole performative. C'est-à-dire que la parole, finalement, crée quelque chose quand elle est dite. C'est vrai pour Dieu et c'est vrai aussi pour nous. Et la parole est une arme extrêmement forte. Une parole, c'est quelque chose qui peut tuer quelqu'un ou qui peut le ressusciter, le guérir. Il y a un verset dans les Proverbes, Proverbe 18, verset 21, qui dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Eh bien, je pense que c'est assez vrai. Alors Dieu, eh bien lui, il nous dit une parole. Non seulement il donne un programme pour l'avenir, mais il nous dit une parole, il nous dit sur nous, c'est-à-dire qu'il nous crée nous-mêmes, autrement dit, en disant « tu es beau, tu es aimé, tu peux faire le bien, tu es amour, tu es bonté, tu es pardon ». Et cette parole nous transforme en être d'amour, de bonté et de pardon. C'est ce que nous faisons pour cela de plus essentiel dans le baptême, justement, où nous disons sur un enfant une parole d'amour, en lui disant « Petit enfant, je ne sais pas encore qui tu seras, ce que tu seras, mais moi je dis, tu es amour, tu es bonté, tu es grâce et tu es pardon. » Et dire une parole d'amour, de bonté, de grâce et de pardon sur un enfant, c'est lui faire, je crois, le plus beau des cadeaux, parce que cette parole est, qu'on le veuille ou non, créatrice. On le crée comme ça, on le positionne comme ça, on le voit comme ça, et on le fait grandir comme ça, c'est-à-dire qu'on le, on le transforme par cette parole. Et d'ailleurs, cela est même vrai aussi dans les 10 commandements. C'est pour ça que les Juifs n'aiment pas qu'on dise les 10 commandements. Ces 10 commandements qu'eux appellent les 10 paroles, vous le savez, ne sont pas des commandements, mais ils ne sont pas dits « ne juge pas, ne vole pas, ne tue pas ». Tous ces commandements, entre guillemets, sont mis au futur. Tu n'auras pas d'autre Dieu, tu ne voleras pas et tu ne feras pas de faux témoignages et tu ne tromperas pas, tu ne tueras pas. Et donc c'est au futur, ce qui est compris justement comme une parole qui est une promesse. Ce n'est pas un ordre, c'est une promesse. Oui, je te le promets, je le crois, tu ne voleras pas. Et oui, je te le dis à toi, tu ne tueras pas. Une sorte de parole qui justement nous transforme à l'image de la confiance qui nous est faite. Et accepter d'être l'objet d'une parole positive, c'est ça la foi. Accepter de se laisser transformer par elle et accepter de dire « cette parole que j'ai reçue, eh bien je l'intègre » pour qu'elle s'incarne en moi, en quelque sorte. Alors Dieu est parole, vous disais-je, affirmation fondamentale de Jean. Cette parole, ce n'est pas une personne à part, ce n'est pas un autre Dieu, mais c'est que Dieu est parole. Dieu est son propre acte créateur. Cela veut dire que Dieu n'est pas une personne sur un nuage avec une grande barbe. Dieu, c'est une puissance créatrice, comme une parole est créatrice. C'est à la fois une parole qui crée parce qu'elle dit quelque chose sur le monde, et c'est une information qui conduit le monde. C'est un programme qui s'effectue dans le monde. C'est une direction, un projet pour le monde, une puissance de création. Et Dieu est sa parole, et la parole de Dieu, c'est Dieu. Voilà. Donc il n'y a pas d'autre Dieu, de parole qui serait Dieu sans être Dieu. Nos traductions depuis 2000 ans en français, bon, peut-être pas 2000 ans en français, mais en tout cas, depuis qu'il y a des traductions en français depuis 1500 ans, mettent le doute dans l'esprit des pauvres chrétiens en mettant cet effroyable « et la parole était auprès de Dieu », ce « auprès de Dieu », on ne comprend plus, attends, la parole elle est Dieu, mais elle est auprès de Dieu, qu'est-ce que cela veut dire ? Réponse, rien, les traducteurs sont des imbéciles, le texte grec n'a jamais dit que la parole était auprès de Dieu, la petite préposition « pros » en grec peut dire simplement « appartient à », et donc le prologue de Jean c'est ça, au commencement était la parole, cette parole c'était celle de Dieu, et la parole c'est Dieu, terminé, c'est simple, vous voyez la théologie c'est pas compliqué. Donc la première question sur la parole elle est réglée, c'est fait, ouf. Ensuite, le verset 14, « Et la parole a été faite chair ». Alors là, on va de catastrophe en catastrophe. D'abord, le Verbe. Certains, je vous l'ai dit, l'ont pensé comme une personne à part, comme une réalité à part. C'est faux, je vous l'ai dit, c'est une manière d'être de Dieu. Cette parole, c'est son acte créateur, c'est pas une parole dite, mais c'est son parler, c'est la façon de parler, son acte créateur. Ce n'est pas une réalité concrète et statique, et encore moins une personne. Donc, la parole, c'est l'acte créateur de Dieu. Il est fait chair. Alors là, plus personne ne comprend rien. Parce qu'en français, la chair, c'est la viande. Et on a l'impression, du coup, que la parole de Dieu, elle prend un corps sans âme. Ce qui a été dit par certains hérétiques. qui ont dit, en fait, Jésus, c'est un morceau de viande animé par Dieu. C'est comme quelqu'un dont l'âme et l'intelligence seraient remplacées par Dieu. Donc c'est un morceau de chair piloté par Dieu. Bon, heureusement, l'Église a brûlé tous ceux qui ont dit une chose pareille. C'était le bon temps. Il ne faut évidemment pas penser une chose pareille, c'est une absurdité totale. C'est une absurdité totale. Le mot « chair » dans la Bible, petite leçon de théologie biblique, le mot « chair » désigne la personne entière et complète, avec son âme, son intelligence, sa liberté et sa pensée. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, quand l'Ancien Testament dit « toute chair saura que l'Éternel est Dieu », toute chair, ça veut dire tout homme. Et donc, le mot « chair » dans la Bible veut dire un homme complet. Et cela veut dire, autrement dit, que cette parole créatrice de Dieu, eh bien, elle s'est trouvée présente dans un homme, Jésus-Christ, mais dans un homme qui n'est pas un ectoplasme, si vous voulez, dans un homme complet, qui a son âme créée, un homme comme vous et moi, qui a son âme créée, sa volonté, son identité, sa pensée propre, un homme complet qui a été Jésus. Et autre dernière catastrophe, la parole a été faite chair. Dernière catastrophe effroyable, comme si Dieu pouvait se faire quoi que ce soit. Mais Dieu ne se fait rien, Dieu c'est l'absolu. Il n'y a pas de devenir en Dieu. Dieu ne devient pas chair, ça ne veut rien dire. Dieu il est éternel, il est immuable, il est au ciel. Et Dieu est au ciel et il reste au ciel. Dieu il est absolu. Ça c'est la base de toute théologie chrétienne. Dieu ne se transforme en rien. Donc Dieu ne devient pas une chair, il n'y a évidemment pas de devenir en Dieu. Thomas d'Aquin l'a expliqué dans à peu près 15 000 pages, vous pourrez les lire. Et donc voilà, on retombe dans une autre catastrophe, et la parole est devenue chair. Certains disant, Dieu se transforme en homme, Jésus, ce serait Dieu qui se fait homme, mais ça ne veut rien dire. Dieu est Dieu, il est au ciel. Et il nous aide à vivre. Dieu nous fait vivre, mais il ne se fait rien du tout. Rien d'autre que ce qu'il est. Dieu est Dieu, l'homme est homme. Il faut chercher ailleurs l'incarnation. Conclusion, Jésus est un homme complet, parfait, avec une volonté, une âme créée, une intelligence propre et une liberté individuelle. Tous les grands conciles des cinq premiers siècles et même jusqu'à Vatican I et II ont répété cela. Tous les grands conciles ont dit que Jésus avait une identité, une âme créée, une volonté propre, et tous les grands conciles ont toujours condamné ceux qui prétendaient le contraire. Mais il se trouve qu'en cet homme Jésus-Christ s'est trouvé présent la plénitude de la parole de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a habité en lui, l'image est belle, c'est ce que dit l'évangile de Jean, elle a habité parmi nous et la parole de Dieu a planté sa tente parmi nous. Jésus-Christ, c'est celui qui a accueilli en quelque sorte cette parole de Dieu qui a habité en lui. Et moi je crois qu'en Jésus-Christ, le Dieu créateur peut encore être à l'œuvre dans ce monde et en moi. Et cela de différentes manières. D'abord par le programme qu'il donne. Jésus-Christ donne un programme. Eh bien, suivez ce que dit l'Évangile. C'est facile, c'est un bon programme. Et je crois que l'Évangile, c'est le meilleur programme possible pour le monde de demain. Et donc, répétez les béatitudes et vivez-les. Heureux ceux qui ont le cœur pur, heureux ceux qui procurent la paix, heureux ceux qui sont doux et humbles. Voilà, ça c'est un programme pour le monde. C'est le chemin, la vérité et la vie. Et l'Évangile, c'est une parole créatrice qui peut créer un monde nouveau par tous ceux qui voudront bien le mettre en œuvre. Et Dieu merci, et je pense à vous, monsieur, il n'y a pas que les chrétiens qui veulent mettre en œuvre ces réalités. Et je crois que toutes les grandes religions à peu près crédibles disent dans ce monde, le monde ne survivra pas à moins qu'il ne considère que le seul moyen de vivre dans ce monde, c'est la fraternité, l'amour, le pardon et le don de soi-même. En dehors de ça, il n'y a pas de monde possible. C'est le chemin, la vérité et la vie. Et ensuite, cette parole qu'a en Jésus-Christ, et c'est aussi une parole créatrice qui peut me transformer moi-même. Une parole dite sur moi, une parole d'amour, de pardon, de vie, de paix et de grâce. Et je crois que Jésus et l'Évangile qu'il nous a donné, c'est une parole qui me transforme et qui fait de moi un être neuf. Pourvu que je m'expose à cette parole, pourvu que je la fasse mienne, pourvu que je la fasse résonner dans ma vie. Et il ne suffit pas de dire « oui, j'ai lu une fois l'Évangile, et une fois quand j'étais enfant, on m'a dit que Dieu m'aimait ». Ça ne suffit pas. C'est comme le vieux couple qui dirait, après quelques années de mariage, à sa femme, le mari, mettons, m'identifie à celui-là, qui dirait « je t'ai déjà dit une fois que je t'aimais, le jour de notre mariage, maintenant ça suffit, j'ai plus besoin de te le dire ». Eh bien si, il faut redire les choses. Et l'Évangile, c'est ça, c'est sans arrêt cette parole du baptême, se la redire à soi et relire l'Évangile et relire les Béatitudes et relire ces paroles qui nous disent que nous sommes aimés, que nous sommes pardonnés, que nous sommes sous la grâce et que nous sommes invités à la grâce, au pardon et à la paix. Si on ne se le rappelle pas, on finit par l'oublier. Il faut renouveler cette parole sur nous, cette parole qui nous transforme. Et je crois qu'effectivement, il y a là la plus grande des choses, c'est que cette parole créatrice de Dieu, qui est donc encore à l'œuvre aujourd'hui pour transformer ce monde et pour me transformer, je crois, et c'est en cela que je suis chrétien, dirais-je, je crois que cette parole, elle s'est trouvée en plénitude en Jésus-Christ, mais ce qui ne veut pas forcément parler d'affaires de demi-dieu. Mais je crois en tout cas qu'aujourd'hui, le monde encore, et moi-même, je ne peux être créé comme un être neuf, et le monde ne peut vivre qu'à partir d'une parole qui est une parole de paix, d'amour, de pardon, de vie, de joie et de lumière. Amen.